La troisième mi-temps Sud Radio.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la troisième mi-temps Sud Radio. Vous le savez, dorénavant, on a rendez-vous comme chaque lundi pour revenir sur le week-end rugby avec des analyses, des réactions, des informations, mais pas seulement. Et pour m'épauler, cette semaine, la Dream Team des Quentin Cabanis, Quentin Barbaza. Messieurs, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut Cyprien.
Bon, en forme après cette cinquième journée de Top 14?
En forme, on a vu des sacrés matchs, de sacrés beaux essais et des scores très fleuves, donc un beau week-end de rugby.
Un beau week-end de rugby aussi pour toi, Quentin Cabanis?
Un week-end très sympa de rugby.
Bon, allez, on va tout débriefer, on va tout vous raconter, on perd pas plus de temps, on rentre directement dans cette troisième mi-temps.
La troisième mi-temps Sud Radio.
Ce week-end, c'était la cinquième journée du Top 14. Quentin Cabanis, est-ce que tu peux nous rappeler les résultats et également les classements, s'il te plaît?
Il peut le faire. Montpellier a battu La Rochelle 37-13. Succès du RCT face à la section paloise 33-17. La gifle du week-end, c'est Clermont-Montauban 84-31 pour les Clermontois. Castres a battu le Racing au bout du suspense 20-16. Perpignan s'est encore une fois incliné à domicile 28-11 pour le Stade Français sur la pelouse catalane. L'UBB a battu le Loup Rugby 32-20 et dimanche soir, Bayonne s'est imposé face au Stade Toulousain 40-26. Au classement, Bayonne est leader avec un point d'avance sur le Stade Français. Ensuite, on va retrouver plusieurs équipes à 14 points. Toulon, l'UBB, Toulouse et la section paloise. Après, il y aura Lyon à la 7e place, égalité avec Montpellier et le Racing 92. Ces trois équipes ont 13 points, suivi de Castres 11 points, La Rochelle 10 points, Clermont 10 points, Montauban 2 points et Perpignan, seule équipe à 0 points. 5 défaites en 5 matchs et 0 points de bonus.
Et t'en perds ta voix tellement ça te fait mal de voir les Catalans dans cet état.
Pour les Catalans.
Exactement. On commence avec la victoire de Montpellier. C'était le match de 14h30 ce samedi face à La Rochelle. Victoire 37-13, victoire bonifiée avec des ingrédients simples, grosse défense et un jeu de dépossession. Et face au MHR, ce sont les hommes de Ronan O'Gara qui ont été plus qu'apathiques et sans solution. Un dur revers pour les Maritimes. On va écouter le manager de Montpellier et du MHR, Johan Codulo, qui était invité dans Au cœur de la mêlée samedi avec François Trio, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Panguero. Il est content de cette performance.
Oui, non, on est content ce soir par ce match. Après, on relativise par rapport à notre performance de la semaine dernière qui fait un petit peu tâche et qui est dommageable dans la régularité qu'on aimerait avoir pour arriver dans nos objectifs. Donc on est content, mais on a un petit peu de frustration de vouloir enchaîner, quoi.
Ils veulent enchaîner du côté de MHR. Messieurs, Quentin Cabanis, est-ce que c'était un MHR performant, efficace ou surtout un La Rochelle très faible ce samedi?
Alors si on en croit Ronan O'Gara, une performance inacceptable de la part des Rochelais. Donc on peut déjà souligner le jeu défaillant notamment du côté de La Rochelle. Mais aussi il faut souligner que Montpellier, c'est très intéressant depuis le début de la saison. Il y a eu finalement la défaite sur la première journée face au RCT. Et puis ensuite, ils sont montés en puissance, les Montpelliérains. Ils ont montré notamment face au Stade Toulousain qu'ils avaient un paquet d'avant très solide. Ils l'ont encore une fois montré avec Erdosio Oukpatin, qui a été quand même relativement performant comme paire de piliers aujourd'hui. Où LSC est quand même aussi efficace. Voilà, il y a des hommes comme les Ninouchi qui ont quand même quelques capacités hors du commun. On en a parlé aussi avec Codulo. Ouais. Est-ce qu'il voit Nouchi potentiellement appelé? Il a dit, je pense que s'il continue comme ça, Fabien Galtier sera obligé de le regarder. Ouais. Voilà, c'est forcément un joueur intéressant. Il y a Mioti qui s'est bien fondu dans la masse. Price qui commence aussi à vraiment prendre ses marques. On a vu 2-3 coups de pied très intéressants, notamment pour trouver Ngandébé ou Maël Moustin, les deux ailiers de cette équipe. Donc voilà, dans Montpellier, c'est une équipe qui monte en puissance et qui va être assez compliquée à jouer. Alors il faut voir aussi la gravité de la blessure de Chalureau.
Il disait Johan Codulo lors de l'interview dans Au cœur de la mêlée, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site Sud Radio et l'application sudradio.fr, que c'était une blessure à la cheville. Il manquerait la semaine prochaine, c'est une certitude, et après avoir l'évolution de sa blessure. Ali Price qui était sorti à la mi-temps, c'était juste une petite contracture, rien de méchant,
pour pas prendre de risque.
Et Vinny Paula qui avait des pets partout,
qui était
un peu cramé,
qui a fait une très bonne 30 minutes comme il a dit ça suffit, il a répété
à plusieurs reprises. Du côté de La Rochelle, Quentin Barbaza, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'on a l'impression de revivre la même saison dernière? Ou alors on est en construction et il faut être patient?
Ben, je pense que c'est inquiétant. On a vu les mots de Ronan O'Gara qui ont été là pour piquer ses joueurs. Je pense à raison parce que La Rochelle, ça fait depuis le début de la saison qu'ils martèlent surtout dans toutes les conférences de presse ou sur tous les toits qu'ils veulent ne pas revivre le calvaire de l'an dernier, se redevenir un gros du championnat. Et puis au final, ils font des performances une fois sur deux. Et encore, quand c'est à domicile, c'est pas fameux non plus. Donc là, très très inquiétant selon moi de cette performance à La Rochelle, à Montpellier, pardon, parce qu'ils avaient mis une équipe qui tenait plutôt la route. Il y avait du Pacom, du Legaré Castoy, du Jégou et puis
du Douglas.
Du Douglas, ouais, voilà, j'allais en revenir. L'expérience de Douglas qui a duré vraiment 16 minutes. Il a raté 3 plaquages, il a fait une performance horrible.
Et il s'est fait sortir.
Il s'est fait sortir. Et du coup, bah, au final, l'expérience de La Rochelle, on l'a pas vu sur le terrain. Et les avants qui sont normalement la force de cette équipe sont fait martyriser.
Mais en tout cas, le MH est en train d'enchaîner du côté du Racing 92. Ça va être une belle confrontation entre deux équipes plutôt en forme en ce début de championnat, tandis que La Rochelle se déplacera du côté du Stade français. Pas un déplacement évident non plus pour les Rochelais pour se remettre un peu la tête à l'endroit. La Rochelle qui restait sur des matchs avec des victoires, même si c'était pas encore brillant, ils ont un match en retard. Hein. Ils ont 10 points, mais ils ont un match en retard.
Le déplacement à Toulon,
et qui n'est pas cadeau, mais voilà, donc, à noter également par rapport au classement et à leur nombre de points. Mais le déplacement du côté Stade français la semaine prochaine, ça va être.
C'est pas le meilleur endroit pour se relancer en ce moment.
Non, en effet. On attaque les matchs du multiplex ce samedi avec Castres Racing 92. Courte victoire des Castrés à la dernière seconde, 20-16. Match avec peu d'envolée à cause des conditions climatiques. Victoire au mental et une belle première apparition pour Enzo Hervé au poste de demi d'ouverture. Rentrée en deuxième mi-temps du côté du CO. Pour les Français, forcément des regrets de ne repartir qu'avec un point de bonus défensif. Quentin Barbaza, CO, le Castres Olympique, ça y est, ils ont fait un match comme ils le savent faire au mental,
sous la pluie,
ne rien lâcher, et ça, c'est le CO qui gagne à la fin.
Oui, et puis je pense que c'est une victoire fondatrice. C'est une victoire fondatrice. Il faut, quand la saison est un peu compliquée, qu'on sait que tous les points vont compter, c'est des victoires comme ça qui forgent les manteaux. Des joueurs, et puis ça va libérer aussi les supporters et tout un club. On a vu à la fin, ils ont bien célébré ça avec tout le COP Castré. Donc oui, 4 points très importants pour recoller au peloton, parce que devant on l'a vu, ça ne chôme pas. Il y a un gros bloc dans le classement, il fallait pas être derrière. Une belle victoire grâce notamment aux hommes qui sont revenus, Papali en puissance, qui a marqué cet essai à la 80e. C'est par ses leaders que le CO va aller chercher ses victoires, et une victoire comme ça va compter.
Quentin Cabanis, tu as commenté ce match pour Sud Radio dans le multiplex. La victoire castraise allait, on va dire, à 10 minutes ou 5 minutes de la fin, elle n'était pas du tout évidente.
Ah ben, il y a plusieurs moments clés hein, dans cette rencontre, et on peut penser notamment à une erreur du Racing avec un dégagement dans l'embut contré, ce qui amène au premier essai du Castres Olympique. C'était qui a pu aplatir ce ballon après donc une erreur de relance du demi de mêlée du Racing. Ensuite, il y a eu aussi l'entrée de Enzo Hervé qui a amené beaucoup de fraîcheur et beaucoup de dynamisme à cette équipe du Castres Olympique. Alors Lucas Guillot, pour sa première en top 14, n'a pas du tout été décevant ou
le
quoi
jeune espoir,
que ce soit.
Hein, le jeune espoir. En plus.
Il a fait preuve de caractère quand même. Et il a été relativement intéressant, relativement propre. Mais Enzo Hervé a amené peut-être plus de prise de risque dans le jeu et un peu plus de folie. C'est ce qui manquait en fin de match au Castré. Et puis il y a cet essai à la 80e minute avec le CO qui a montré en 2 minutes plus de jeu que sur les 78 premières. Tu vois, pendant 2 minutes, ils ont de toute façon, ils étaient dos au mur, ils avaient pas le choix, il fallait marquer un essai pour s'imposer, et au courage, ils ont été le chercher cet essai avec Papali qui a marqué l'essai. Mais il y a des choses où on peut encore se poser des questions du côté du Castres Olympique. On est franchement pas rassuré. Il y a la touche, mais il y a aussi les choix. Justement, tu parles de la touche. Dans les dernières minutes, les Castrés choisissent deux fois d'aller en touche alors qu'ils ont une pénalité dans les 22 mètres. Ils auraient pu choisir la mêlée vu qu'ils venaient de détruire la mêlée du Racing 92 dans les tout derniers instants du match. Ils choisissent d'aller en touche. Ils ratent le lancer. Touche d'après, ils se mettent à la faute aussi. Voilà, il y a eu la touche qui est décevante, mais on le sait depuis le début de saison du côté du Castres Olympique. Mais le choix d'aller en touche qui peut être aussi remis en question. Mais c'est un match de la première journée qu'ils ont perdu face à la sélection paloise. C'était à peu près les mêmes conditions de jeu, un temps dégueulasse, il n'y a rien qui marche, et finalement la première journée ça a tourné dans la faveur de la sélection paloise. Là, les Castrés au caractère ont réussi à s'imposer. Le caractère, on l'avait pas vu la semaine dernière face au Stade Toulousain. Cette fois, on l'a vu. Et on peut espérer que ça donne suite à des bonnes choses pour le CO. Mais on n'est pas rassuré par cette équipe non plus.
Ouais, en effet, le Castres Olympique et le caractère des Castrés, on ira le voir du côté de Sapiac et de Montauban la semaine prochaine. Tandis que le Racing 92 va recevoir le Montpellier à la U Arena. On part direction Aimé Giral avec une nouvelle défaite pour l'USAP et une victoire bonifiée pour le Stade Français 11 à 28. Les Parisiens qui mettent fin à 18 matchs de défaite de suite à l'extérieur et des essais en première main, ce qui était rare du côté des joueurs de la capitale. Pour les Catalans, rien ne va plus, 0 points, 5 défaites et une crise qui est de plus en plus présente, une impuissance exprimée par Franck Azéma, le manager.
Ça veut dire que les choses, ils les entendent pas. On va voir. C'est quand t'es leader, c'est à toi de mener le groupe. Aujourd'hui, force est de constater que le message que j'envoie, il passe pas. Donc ça va être de ma responsabilité, et certainement. Donc voilà, je vois pas d'autre explication. Tu vois, on s'entraîne tous les jours, on fait tu vois, on a les conditions qu'il faut, on a l'environnement qui est parfait. En tout cas, sur le terrain, il n'y a pas de rendu.
Il n'y a pas de rendu et encore une fois une défaite compliquée à domicile pour les Catalans. Le président Rivière a reçu le staff puis les joueurs ce dimanche et la tendance est un statu quo pour le moment du côté de Perpignan. Le président Rivière qui était l'invité d'Alexandre Priam à la mi-temps samedi soir de UBB Lou et lui aussi a marqué son incompréhension et son inquiétude cette saison, mais il compte faire bloc avec le staff actuel et notamment Franck Azéma. Messieurs, est-ce qu'on est très très inquiet pour les Catalans ou alors ça va jouer avec Montauban pour la 13e et 14e place et ils sont, on va dire, une petite longueur d'avance parce qu'ils ont un peu plus d'expérience que les Montalbanais?
Ah, pour l'instant, ils n'ont pas de longueur d'avance, ils sont derrière au classement. Donc ils ont 2 points de retard pour l'instant face à cette équipe montalbanaise et on est obligatoirement inquiet pour l'USAP. Quand tu as 0 point après 5 journées, c'est forcément inquiétant. Mais il y a quand même quelques motifs d'espoir pour cette équipe. Il y a les deux Argentins qui vont revenir du rugby championship, notamment Oviedo. Il y a Tulagi qui est censé revenir dans 2 semaines maintenant. Donc ça, forcément, ça va faire beaucoup de bien à cette équipe de l'USAP. On a aussi dans l'interview que vous pouvez réécouter, notamment sur la chaîne YouTube de Sud Radio de François Rivière, compris que s'il fallait faire des efforts, notamment rajouter quelqu'un au staff, il n'était pas du tout fermé à cette idée et que ça pouvait quand même en prendre le chemin, que s'il y avait une retouche ou deux à faire aussi sur le groupe en tant que joueur, il pourrait les faire. Donc il est prêt à mettre encore une fois de l'argent,
à donner des moyens, ouais.
Voilà, et il faut dire que des moyens, il en a donné pas mal quand même sur ces dernières années, François Rivière, et il a donné de quoi travailler à Azéma, et pour l'instant, la sauce ne prend pas, donc c'est ça qui est plutôt inquiétant, parce que on a aussi le sentiment qu'il fait une totale confiance à son entraîneur, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais est-ce qu'il ne va pas lui faire trop confiance, par exemple?
Il ne faut pas faire une confiance aveugle, ouais.
Le bilan de la saison dernière, c'est ce qu'il nous disait aussi, le bilan de la saison dernière n'a pas été tiré. Voilà, on avait dit bon, c'était une saison ratée, il faut passer à autre chose, on oublie. Et peut-être qu'il aurait fallu tirer les conclusions, notamment sur le jeu d'attaque.
Et un peu plus tôt.
Voilà, parce que là, Perpignan, c'est 66 points marqués cette saison pour l'instant.
Et c'est surtout que, encore une fois, c'est vu le recrutement de l'été, des ambitions affichées du on veut aller gratter une place au top 6, on veut essayer de faire quelque chose.
Ce qui a été annoncé, entre ce qui a été annoncé et ce qui est ressenti, on peut aussi comprendre que certains supporters choisissent de quitter les tribunes avant la fin du match.
L'engagement, il n'y est pas, quoi.
Et puis, tu sais, on dit souvent que les emmerdes, elles arrivent jamais seules.
Elles volent en escadrille.
Voilà, du côté de l'USAP, ça va pas sur le terrain. En plus, là, tu vas avoir une suspension de ton terrain pour une journée, ce qui va forcément pas aider parce que aller gagner à Aimé Giral, c'est quand même plus compliqué qu'aller battre Perpignan du côté de Narbonne ou en Espagne. Tu vois, donc c'est quand même compliqué pour cette équipe de l'USAP. Mais aussi, il faut souligner dans ce match la bonne performance du Stade Français.
Justement, Quentin Barbaza, le Stade Français, c'est un peu la bonne surprise en ce début de saison, surtout quand on a vu les essais qu'ils ont marqués aux Catalans, des essais en première main pour certains, avec une paire de centres assez intéressante, Jérémy Ward et Noah Néné.
On a vu de beaux mouvements du côté du Stade Français là, ce samedi. Ils ont eu la chance, depuis le début de saison, on voit de belles attaques. Ils ont la chance de tomber aussi sur des équipes pas trop en place encore. On a le premier match contre Montauban, la Perpignan qui inquiète beaucoup, et il y a eu l'UBB qui est passé aussi sous le feu de l'attaque du Stade Français. Donc de bonnes, ça augure quelque chose de bon du côté de Paris, ces victoires. Attention, il faut les voir aussi contre les cadres de ce championnat, Bayonne, Toulouse ou autre. Donc à voir ce que ça donne. Après les points, les matchs, faut les gagner sur le terrain. Les
en tout cas, c'est un autre visage que la saison dernière.
Ça fait plaisir à revoir. C'était Paul Gabriel qui le disait. Il y a des joueurs
qui sont en train de renaître. Hein. Ward, il est bon. Alors il est plutôt toujours bon, ce garçon.
Il a rarement. Il a eu un passage compliqué dans sa vie privée l'année dernière. Et donc, du coup, il a eu. Ça s'est ressenti un peu sur le terrain, mais il est toujours un peu au rendez-vous. Non, mais c'est surtout Carbonel, Johan Torga.
L'équipe a manqué de leader l'an dernier.
Tu te dis qu'il t'arrive sans Carbonel. Tu vois, c'est Abadi qui était à la mêlée. Tu vas faire un résultat à l'extérieur. Il y a Noah Néné qui commence à prendre ses marques aussi, ce qui peut être très intéressant pour cette équipe du Stade français. Là, il y a Léo Barré qui a marqué. Ça peut lui faire le plus grand bien.
Ça peut débloquer un truc.
Parce que, malgré un Léo Barré pas très bon. Bon, elle est depuis un an et demi quasiment, mais surtout depuis le début de saison, il n'était pas fabuleux, Léo Barré. Tu te dis que si lui il reprend son niveau qui était quand même international, voilà, ça peut être très intéressant.
Puis je pense que le groupe a peu évolué, donc du coup ils se sont dit aussi qu'ils n'avaient pas envie de passer pour des peintres une deuxième année de suite.
Le groupe a peu évolué, mais à la fois
la mentalité, oui.
Ce qui a été amené en plus aussi amène quelque chose.
C'est pertinent en effet avec l'arrivée notamment du demi-mêlée de La Rochelle, Kerr Barlow, le néo-zélandais Perpignan, qui tentera de lancer enfin sa saison du côté de Lyon. Ça va pas être chose évidente.
Ah oui, parce que Lyon a besoin de se rattraper en plus.
Exactement, deux défaites de suite pour les Lyonnais. On va en parler dans un instant. Tandis que le Stade français recevra La Rochelle à Jean Bouin. Maintenant, Clermont-Montauban. Ouais. Un succès plus que large pour les Clermontois. 84-31-12. Et c'est inscrit par les hommes de Christophe Furios dans une orgie de rugby face à des Montalbanais qui n'arrivent pas à se déplacer correctement dans ce top 14 malgré des bonnes attentions qui émergent par-ci par-là. Clermont, on a l'impression que ça y est, ils ont enfin trouvé un peu le... Alors, c'était une équipe, évidemment, en face un peu plus faible. Quentin Barbaza, tu as commencé ce match pour le multiplex avec François Trio, mais on a l'impression que Clermont a trouvé une sorte... entre les avant et les deux,
il y a du lien
entre les deux.
Il y a du lien, il y a eu un gros match de Tolofoa justement dans ce rôle-là pour sortir les ballons derrière les mêlées, une mêlée qui a dominé totalement celle de Montauban, qui a eu pas mal pour faire la transition entre le jeu d'avant et le jeu de trois quarts. Bézi aussi qui était titulaire sur ce match-là, qui a repris un peu la place de Jonot pour le faire un peu souffler, qui a assuré une charnière avec Harry Plummer aussi qui a fait un grand match, il a transformé 10 des 12 essais, il a marqué son essai lui aussi, une performance de haut vol du néo-zélandais. Donc oui, quand il y a des avant qui dominent, que tu as une charnière qui distribue bien les ballons, et puis quand on a aux ailes, t'as des mecs comme Raka ou Juran qui peuvent finir les coups et qu'il y a des espaces, à la fin ça fait 84 points. Petite alerte sur Montauban, ça fait deux déplacements, trois, ils en prennent entre 47 et 84 en trois fois. Donc ça risque d'être un peu long.
On voyage lourd.
Ça fait mal. Les valises sont lourdes. Ouais, ça doit être la soute du bus doit être un peu chargée.
Ouais, donc, les pneus doivent un peu tirer derrière.
Donc, attention à Montauban. On a vu encore trop d'espace, trop de plaquages manqués. Ça marque sur des ballons de contre. On a vu Boswell qui fait une interception. Donc ils se nourrissent de petites erreurs, mais eux ils en font beaucoup trop encore pour pouvoir espérer quoi que ce soit. Ils marquent 31 points, mais
ils prennent plus de 40 points une mi-temps, ce qui est pas normal.
Deux fois 42.
Tu peux pas en prendre autant dans une mi-temps, surtout en top 14. Et en déplacement, Quentin Cabanis, est-ce que Clermont c'est quoi? C'est une étincelle? C'est un feu de cheminée qui va durer, ou alors c'est un pétard mouillé potentiellement?
Déjà quand tu marques 84 points dans un match, ça veut dire quelque chose, hein, peu importe l'adversaire ou le niveau d'adversité, c'est quand même assez significatif. On peut voir que Plummer, ça y est, peut-être c'est vraiment intégré à cette équipe. Il a été très efficace dans le jeu au pied. Quand tu passes 9 transformations par exemple, c'est que t'es quand même plutôt pas mal en confiance, tu marques un essai. Là, parmi les titulaires, les 7 arrière titulaire ont marqué un essai dans ce match. Donc tu vois, ils se sont régalés, ça a fait tourner le ballon. Donc voilà, on peut souligner ça, que le paquet d'avant ça marche de mieux en mieux, que les talonneurs répondent présents aussi, Massa par exemple qui est sur une bonne saison. Donc c'est assez intéressant, mais voilà, en face, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est Montauban, et je pense que Montauban ne va même plus essayer d'aller chercher des succès à l'extérieur. Ils vont tout jouer.
Ils auront l'USAP certainement.
Voilà, c'est ça, mais ils ont peut-être un match ou deux à jouer vraiment à l'extérieur. Et tout le reste, c'est tout jouer pour les matchs à domicile, essayer d'aller gratter le maximum de points, parce qu'ils peuvent vivre une saison vraiment très compliquée. On s'y attendait un petit peu aussi, hein, parce que c'est un peu un miracle que cette équipe monte à l'Albanais.
Moi, j'ai peur que ça fausse un peu ce championnat-là, que des équipes qui se déplacent et qui en prennent 80, ça commence à se répéter.
Si ça arrive pour toutes les équipes, non.
On dit ça, mais il y a eu parfois les situations inverses où des équipes allaient à Toulouse, quasiment toutes les équipes qui allaient à Toulouse se déplaçaient avec des équipes 10. Et on peut avoir le cas bah, dès le week-end prochain, tu vois, peut-être que l'UBB va faire tourner pour son déplacement à Toulouse. C'est quelque chose qui est possible.
On va en parler dans un instant. Juste à noter que le vrai test pour Clermont sera la semaine prochaine avec du côté de Marcel Michelin, parce qu'ils recevront le RCT. RCT plutôt en forme. Match, si je ne me trompe pas, de samedi 21h. Mmh. Une très belle affiche. Et là, pour le coup, pour les hommes de Christophe Furios, à domicile, ce sera un vrai test de voir, pour voir un peu où ils en sont réellement dans ce championnat.
Sachant Furios, il avait, avant ce match-là, il avait dit pas de cadeau, on veut que la défense soit solide. Ils ont encore pris quand même 4 essais. Hein.
Ouais, ils ont pris 31 points quand même.
C'est beaucoup. Et puis ils ont fait quelques cadeaux. Donc,
et après, moi, il y a, par contre, côté Clermontois, il y a un moment où il y a une question qui va peut-être devoir se poser. Alors, je vais peut-être vous choquer de dire ça.
Je me prépare.
Mais je trouve que Béziers, en ce moment, est meilleur que Jeannot.
C'est dur à dire, il a fait qu'un match.
Bah oui, il a fait qu'un match. Jeannot a quand même pas été flamboyant, je trouve, depuis le début de la saison.
Je pense que Jeannot a le rôle de leader et peut avoir tendance du coup à parfois un peu surjouer.
Exactement. Il est moins dans la gestion.
Vouloir compenser un nouveau statut qu'il va falloir qu'il prenne. Prendre la mesure.
Bézi, s'il fait des grosses performances comme
Bézi,
ça tout le temps,
Bézi, pour le voir sur des matchs.
Bézi est le parfait, exactement. Et Bézi est le parfait complément de Jeannot
pour rentrer en fin de match pour la gestion.
Exactement. Et l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux commencer avec l'un et finir avec l'autre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu peux compter avec un Seb Bézi.
Il est rarement mauvais.
Il est rarement mauvais. C'est un joueur qui connaît très bien le championnat et qui a même le niveau international, évidemment. Donc, je disais, Marcel Michelin, ce sera le RCT pour Clermont, et Montauban recevra Castres samedi prochain. Le dernier match.
Ça peut être un match que Montauban peut essayer de gagner. Parce que c'est une équipe que
qui est dans le dur.
Non, mais que Montauban connaît très très bien. Ouais, il se joue chaque intersaison.
En début de saison.
Tu vois, il y a le
trophée Ibrahim Diarra.
Exactement. Donc voilà, c'est deux équipes qui se connaissent très bien. Ils se sont joués notamment au match de préparation cet été. Donc ça peut être aussi une des affiches que Montauban peut viser, et notamment pour une petite fierté pseudo-régionale, on va dire.
Bon, le dernier match de ce multiplex opposé Toulon à Pau, avec une victoire bonifiée pour les hommes de Pierre Mignoni, 33-17, des Toulonnais pragmatiques et combatifs face à des jeunes palois avec des intentions, mais beaucoup trop maladroits et indisciplinés pour espérer mieux à Mayol. À noter également le retour du grand Charles Olivon, après sa grave blessure au genou en janvier dernier. Un beau samedi du côté de la Rade, quant à Marbaza, pas grand-chose, pas de nuages au-dessus de Toulon. Ça faisait longtemps et ça fait du bien.
Ouais, ça fait du bien, je veux déjà pour les supporters d'être au sec, pour les joueurs de voir un peu de soleil, et du coup du soleil, et qui dit soleil dit essai. Une victoire face à une équipe de la section paloise qui avait fait tourner, l'objectif c'était de prendre la victoire bonifiée, non ? Ils ont pris le bonus ? Ils ont pris le bonus, donc parfait, il n'y a rien à dire. Encore une grosse performance de Manonou à noter. 43
deux
ans,
essais en deux matchs,
ça vieillit pas, c'est comme le bon vin, ça se bonifie. Donc Manonou, même sur le banc, Serein, Olivon, quand l'expérience revient, quand Ribans, un Toulon d'expérience qui a mis à mal la jeunesse paloise pendant 80 minutes.
Ouais. Et Quentin Cabanis, le RCT se confirme, ils ont un match de retard, mais confirme que ça va être vraiment un gros client cette saison de 14.
Ça va être une des équipes compliquées à jouer, de toute façon, on s'y attendait.
Hein. À domicile et à l'extérieur.
C'est une équipe qui vise le top 2, clairement, je pense, et qui a l'effectif pour aller embêter l'UBB et le Stade Toulousain. Donc voilà, on n'est pas vraiment surpris de les voir à ce niveau-là, c'est ce qu'on espérait, et on n'est pas déçu, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai eu quand même une petite inquiétude en fin de match sur Olivon, parce que
il vérifiait un peu le genou, il sentait un peu la reprise, les sensations, il voulait checker
on espère qu'il va pouvoir enchaîner. Et puis il y a des choses qui sont intéressantes côté Toulonnais. Il y a ce replacement de Priso à droite qui amène une nouvelle possibilité, et là tu peux te retrouver avec une première ligne gros avec de l'autre côté Priso, ce qui peut être très solide aussi bien dans le jeu qu'en mêlée. Tu vois, il y a des joueurs comme Rebadj à l'aile, comme un peu tous les sentistes, hein, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train de péter cette saison, les champions olympiques de rugby à 7, Grand Didier, il y a du côté de Andy Timo qu'on voit un petit peu plus,
Joseph du côté de
Jefferson Joseph à l'USAP. Donc voilà, on les voit de plus en plus, et c'est plutôt une bonne chose pour ces joueurs,
bien sûr.
Et voilà, Baptiste Serein qui est le patron, voilà. Et du coup, il y a peut-être un petit doute sur ce poste de mid-mêlée, parce que quand Serein est pas là, C'est plus dur.
C'est Ben White et si je me trompe pas, le troisième demi de mêlée de Toulon cette année, c'est Clovis Lebail, l'ancien pensionnaire de la section et du Racing 92. À noter également que du côté de Toulon, ils ont quand même un capitaine exceptionnel, un joueur qui
honnêtement, est-ce qu'il va rester capitaine si Olivon redevient titulaire?
Franchement, il dégage un truc.
C'est un Charles a aussi un charisme quand même, tu vois.
À voir.
Il a été capitaine de l'équipe de France.
En
mais
tout cas,
ils ont deux trois leaders sympas.
Sacré joueur Ribans qui se trouve dans cette, on en parlera dans un instant, mais dans la compo de Sud Radio, mais il a été plusieurs fois déjà depuis le début de la saison dans la compo.
Et Frisch qui monte en puissance aussi,
qui fait des bons matchs.
Et ça peut devenir intéressant parce qu'il faut se rappeler quand même que ce garçon, quand il est arrivé du côté de Toulon, il avait été appelé en équipe de France.
Ouais. Après, il s'est blessé. Il sortait de la tournée en Argentine avec l'équipe de France. Il revenait de l'Irlande et du Munster. Et il a voulu revenir pour essayer d'aller chercher le maillot de
France. Il était appelé en étant joueur en Irlande. Mais après, il y a eu la blessure et du coup, les choses se sont compliquées. Et là, cette année, il commence à montrer le bout de son nez. Il marque un essai encore ce week-end. Donc,
belle complémentarité avec l'Italien Brex au centre de l'attaque. On en a parlé tout à l'heure. Toulon se déplacera du côté de Marcel Michelin à Clermont. Tandis que la section paloise va recevoir l'Aviron bayonnais, ça risque d'être assez coquin à regarder. Le match de samedi soir opposait l'Union Bordeaux-Bègles au Loup Rugby et ce sont les Bordelais qui sortent vainqueurs avec un bonus offensif 32-20. Match à haute intensité et très plaisant niveau rugby. Les hommes de Yannick Bru qui continuent d'assurer à domicile un match à l'image de la saison comme l'explique Louis Biel-Biarré, l'ailier bordelais.
C'est un match où on a fait des belles choses dans les intentions, notamment ces 20 premières minutes et ces 20 dernières, mais c'est un match où aussi on a été très indiscipliné, un peu maladroit, un peu fébrile aussi dans le cœur du match, donc à nous de comprendre pourquoi et dès la semaine prochaine on va avoir un bel élément de réponse parce que si on joue que 40 minutes face à Toulouse, ça va être compliqué et ça va peut-être pas passer comme là.
Record d'ailleurs pour l'ailier bordelais Quentin Barbaza qui a dépassé
47 essais, 47 c'est un beau nombre,
qui a dépassé l'ailier australien O'Connor
Blair Connor. Non, c'est pas le même pays.
Blair Connor qui avait ce record là, l'australien qui était arrivé du côté de Bordeaux avec sa planche de surf il y a quelques années,
ouais, une femme de 2 ans déjà au plus haut, c'est assez impressionnant.
Il est impressionnant quand tu regardes ses traces, que ce soit en équipe de France ou en
il en avance surtout.
Il a plus d'essais que de matchs joués, tu vois, et en top 14 c'est impressionnant. Bah, en même temps, il va tellement vite. Mais c'est ce que je disais, hein, monsieur, avec un corps comme ça, c'est tellement facile. Il court tellement vite.
Alors là,
c'est de la
triche. Vous entendez la jalousie, parce que évidemment, que Quentin Cabani,
évidemment,
pas du tout ce corps-là.
Non, et jamais. Hein,
on est d'accord que les Bordelais, c'est toujours, assurance tout risque.
Tout risque, je dirais pas.
Moi,
ça.
Je suis pas d'accord.
Je dirais pas tout risque.
Je suis pas d'accord non plus.
Je dirais pas tout risque parce que
à domicile, je les trouve quand même.
Derrière à la 60e quand même.
Je veux dire, ils ont fait.
J'ai pas eu la sensation qu'ils soient fait vraiment très très peur.
Moi je pense qu'ils ont fait quand même preuve d'une certaine suffisance dans le match.
C'est pas vraiment pareil. Oui. Pour moi, ils ont pas eu peur de perdre le match. Ils ont sûrement une suffisance depuis le début de la saison.
Tu sais qu'il y a quand même un gros tournant dans ce match là quand même parce qu'ils font 18 premières minutes exactement parfaites. Ils mènent 18-0, je crois, très très vite. Face à cette équipe du Loup, 22e, il baisse le pied, le Loup revient, repasse devant et le tournant du match finalement c'est le carton jaune de Vainicolo qui intervient à la 66e exactement et c'est sur la faute de Vainicolo que Jalibert inscrit les premiers points de l'UBB depuis la 18e minute. Donc entre la 18e et la 66e minute, ils ont pas marqué un point et ils vont marquer tous les essais pendant l'absence de Vainicolo sur ce match. Donc c'est vraiment pour moi le tournant du match et je pense qu'à 15 contre 15, ils auraient pu continuer à se faire peur parce qu'ils font preuve aussi d'une certaine naïveté sur le plan défensif parce que le petit Esteban Gonzalez là, qui a été très intéressant
du côté du Loup,
l'arrière petit-fils de Raoul Barrière qui se permet de mettre deux essais quasiment les mêmes avec des petits ballons, des petits coups de pied par-dessus qu'il va récupérer. Alors il y en a un où Penaud se trouve défensivement, mais voilà, et il y a eu un sauvetage de Penaud dans son nom de but sur une troisième petite filouterie de Gonzalez, mais voilà, tu aurais pu te retrouver mené 27 à 20 dans les 15 dernières minutes, tu vois.
Et justement, du côté de Bordeaux, donc victoire, mais c'est pas encore tout est en place et ça va être un gros test.
Ça gagne,
ça va être un gros test.
C'est un match
face à Toulouse.
C'est un bon match.
Très très bon match. Mais du côté du Loup, deux défaites en deux déplacements. Est-ce que
après c'est des déplacements compliqués aussi.
Oui, mais quand on ambitionne une place dans le top 6, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que prendre deux défaites, des défaites sans points de bonus défensif en plus.
Là, il y avait
contre
mieux
la section paloise.
Là,
il y avait mieux à faire, c'était sûr. Mais après, je pense que dans le jeu, ils sont quand même satisfaits de ce qu'ils ont montré. Quand tu tiens l'UBB sur les fondamentaux, que ce soit sur la défense ou même quand t'es devant à un quart d'heure de la fin du match, que tu sais que finalement, c'est sans les exploits de Bielbiaré, t'aurais pu gagner le match. Ils savent qu'ils sont dans le vrai, je pense, l'équipe de Karim Ghezal, que s'ils continuent à récupérer, à faire ce genre de performance, même à domicile, l'important, je pense, dans ce cas, c'est de gagner à domicile. C'est, ils seront pas loin de la vérité en fin de saison.
C'est une équipe qui va pas beaucoup perdre de matchs à Lyon, hein, je pense.
Non, justement.
Et pourtant, c'est une équipe qui va être privée de Kouyou.
Oui.
Tu vois, donc, qui est déjà privée de Kouyou.
Mais qui a découvert un bon suppléant avec Charles Cassan et Esteban.
Ouais, après, il a que 19 ans, donc il faut lui laisser le temps aussi. Il est pas le cramer. Mais il est très intéressant.
En tout cas, il est très intéressant. En parlant de ça, les hommes de Karim Ghezal recevront Perpignan. Donc, pour se remettre la tête à l'endroit, c'est peut-être la bonne équipe après deux déplacements compliqués.
Ça peut être encore compliqué pour lui, ça.
Et exactement. Tandis que l'UBB, vous le savez, ira du côté du Stade Toulousain pour un remake des deux dernières finales de top 14. Enfin, cette journée s'est achevé du côté de Jean Daugé avec un superbe match de rugby entre Bayonne et Toulouse. Et Bayonne garde son invincibilité à domicile grâce à une victoire 40-26 et surtout un dernier quart d'heure de très très haut niveau du côté toulousain. Encore une lourde défaite en déplacement et le manager Hugo Mola se rend bien compte qu'il manque encore un petit quelque chose à son groupe.
Moi, je trouve que voilà, on court après une forme de lien entre nous et collectif, même si on est sur les basiques suffisamment correct pour être dans le match jusqu'à la 65-68e et puis après on craque trop facilement. Donc ces 10-12 dernières minutes, elles sont quand même problématiques. Donc il faut on sait d'où on vient, on sait ce qu'il nous reste à faire. Mais deux déplacements, je crois que ça nous était pas arrivé depuis très très longtemps de prendre autant de points. Donc oui, forcément, il faut se retrouver dans la peau d'une équipe qui a besoin de montrer un peu plus de caractère.
Hugo Mola, le manager, et vous entendiez en fond les vestiaires de Jean Daugé, des champs basques tremblés après la victoire de l'Aveyron bayonnais. Quentin Cabanis, on a l'impression que Bayonne, c'était pas une erreur la saison dernière. Ils ont vraiment des assurances, des garanties, et surtout ils ont fait un dernier quart d'heure de très très haut niveau. Ils ont battu le Stade Toulousain. C'est pas le Toulouse qui a perdu le match, c'est Bayonne qui a gagné.
Il y a un peu des deux. Alors ouais, Bayonne a été très bon et plus que des certitudes, il y a du talent hein, dans cette équipe, il y a énormément de talent. Alors Second est monté de deux classes, je pense, depuis qu'il est arrivé à Bayonne. C'est devenu en ce moment peut-être un des deux ou trois meilleurs 10 du championnat. Tu vois,
c'est un mélange de Dan Carter et de Johnny Wilkinson, c'est ce que tu essayes de dire?
J'aurais Second, il y a du box 6 en lui. Mais il y a aussi une passe sublime. Là, il fait notamment deux passes sautées exceptionnelles dans ce match pour trouver notamment ses ailiers.
Et qui peuvent être interceptées à tout moment. C'est vraiment des passes à risque à chaque fois.
Des passes à risque, mais dosées parfaitement. Il y a la passe volée qui est suivie par une passe volée de Martoc aussi pour le dernier essai bayonnais qui est exceptionnel. Second est vraiment désormais maintenant le patron de cette équipe. Et tu te dis que quand il est là, il peut quasiment rien leur arriver. Mais il n'y a pas que lui. Je veux dire, Capilla est sur une saison aussi. Et là, il fait un match encore
le troisième ligne, en effet.
Très intéressant. Ituria, quand il faut y aller, il est là. Tulagi, même s'il y a eu des moments peut-être à mon poil limite au niveau des contacts, il répond présent. Spring fait aussi une très très bonne saison. Donc il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et puis il y a une première ligne qui est redoutable. Bordelais, Cetiano, c'est fort.
Ils ont beaucoup d'absents au niveau des piliers. C'est-à-dire que quand ils vont récupérer tous leurs joueurs, on pense à Tadji,
Cormenier,
Tatafou, exactement.
Ah, va y avoir un casse-tête.
Il va y avoir un casse-tête, c'est surtout que tu as de quoi voyager et recevoir. Donc, très intéressant. Voilà. Du côté de Toulouse, Quentin Barbaza, on a vu des bonnes choses, pourtant, en première mi-temps. On a vu aussi que quand Thomas Ramos était rentré, on avait l'impression qu'il y avait un truc qui allait se passer en mode pas grand chose peut arriver au Stade Toulousain. Ils sont devant, trois poteaux dans le match.
C'est ce que j'allais dire.
De Romain Tamac sur transformation, une pénalité de Thomas Ramos également sur le poteau. Donc c'est quelques points lâchés en route. Malgré tout, ils ont pris la foudre en cette fin de match. Est-ce qu'ils n'ont pas joué avec le feu?
Finalement, à l'abri. Tu dis que c'est Bayonne qui a battu le Stade Toulousain, qui sont allés le chercher, mais je pense que Toulouse a perdu le match un peu tout seul. À 26-21, quand Ramos a la pénalité pour faire 29-21, c'est le tournant du match. Il y a des erreurs au pied, des points lâchés en route. Toulouse doit gagner ce match, selon moi, 9 fois sur 10.
Il y a le coup de pied de renvoi aussi
d'Entamac.
Tu vois qu'il est cramé, il a un coup de pied de renvoi depuis son en-but. Le coup de pied, il atterrit à 15 mètres de son en-but.
D'ailleurs, il se presse parce que l'arbitre lui dit que ça sert à rien de gagner du temps, qu'il allait mettre un bras cassé contre lui ou une pénalité, je sais pas ce que c'était. Mmh. Mais en tout cas, il se presse.
Tu vois déjà sur le repli défensif avant pour aplatir dans son camp, il est cramé.
Il s'étire.
Et nous, à l'antenne, on se dit pourquoi Ramos n'est pas encore rentré. Tu vois, mais Ramos, il rentre sur l'action d'après, il amène quelque chose. Mais Ramos, il y a un moment où il ne trouve pas une touche. Tu vois, il y a aussi la gestion.
Un Blair Kinghorn, 15 très décevant, qui a été mis en difficulté sous les ballons hauts, qui n'a pas bien relancé, qui n'a pas choisi les bonnes zones à chaque fois.
C'est peut-être le manque de confiance aussi qui ressort. Là, une équipe qu'on parlait depuis le début de cette saison, qui avait quelques manques, notamment dans l'envie, dans l'impact physique. Ça, on l'a peut-être revu en fin de match.
Et il y a un joueur qui n'a pas été au niveau aussi auquel il est d'habitude. Je pense que Willis a été plus décevant que ce qu'il est. Normalement, il est royal et prégnant. Là, il a fait des erreurs. On a vu aussi Roumat faire des fautes de main.
Roumat surtout a été en dedans.
Alors, Entamac, par contre, Théo. Entamac est quand même bien monté en puissance cette saison. Là, il marque encore un bel essai avec un joli raffut. Le début de match de Romain Ntamak est aussi intéressant. Il trouve une ou deux ouvertures au pied quand même qui sont plutôt
pour l'essai de Lebel notamment.
Plutôt joli, voilà. Mais dans le suite, ça a été décevant.
Mais en tout cas, Toulouse en déplacement, c'est plus compliqué. Il va falloir
qu'ils arrivent. Qui n'est pas encore à son niveau. La Delib a été discret. Bertrand a été plutôt intéressant, le jeune pilier gauche. Tu vois, on peut aussi souligner l'entrée de Colombe qui marque un essai.
Se plante aussi sur l'essai d'Esteban Capilla.
Voilà, mais
donc il en marque un, mais il en coûte un. Donc l'un dans l'autre, je sais pas ce qui est gagnant. Ouais. C'était les premières minutes d'ailleurs de Georges-Henri Colombe sous maillot Toulousain.
Il y a eu deux trucs importants à souligner, c'est la défaillance du paquet d'avant. Ils font à peine 50% en touche, mais c'est, je crois, ils en perdent 6 ou 7 des ballons en touche.
Ça, j'ai déjà pris la foudre à Montpellier.
Sur leur lancer, ils font même pas 50% en mêlée. Tu vois, tu dis que
il y a du travail devant, en effet.
Que devant cette semaine, à mon avis, ça va faire, ça va chauffer. Quoi.
Ça va, oui, il va y avoir de la fumée et ça va frotter les oreilles.
On n'est pas habitué à voir ça. Et on sait que quand le paquet d'avant est défaillant, derrière, c'est dur de mettre du jeu. Et c'est peut-être aussi pour ça que le jeu paraît moins huilé. On n'a pas l'habitude de voir Toulouse se faire casser la bouche devant.
En tout cas, Toulouse aura fort à faire dimanche prochain face à l'UBB, mais ça ne sera pas facile non plus pour les Bayonnais qui se déplaceront du côté de la section paloise samedi à 14h30. Tous ces matchs, évidemment, à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Maintenant, je vais vous donner le 15 Sud Radio de cette 5e journée de Top 14 avec toute l'équipe rugby. On a commencé avec numéro 1 Andy Bordelais de Bayonne, numéro 2 Barnabé Massa de Clermont, numéro 3 Paul Aloé-Mille du Stade Français, numéro 4 Paul Gabriel du Stade Français, numéro 5 David Ribans de Toulon, numéro 6 Esteban Capilla de Bayonne, numéro 7 Lenny Nouchi de Montpellier, numéro 8 Selevasio Tolofua de Clermont, numéro 9 Sébastien Bézi de Clermont, numéro 10 Joris Segond de Bayonne, numéro 11 Louis Biel-Biarré de Bordeaux, numéro 12 Nicolas Deporter de Bordeaux, numéro 13 Jérémy Ward du Stade Français, numéro 14 Joris Jurand de Clermont et numéro 15, Théo Chabouni de Castres. Les autres informations à retenir lors de ce week-end rugby, Quentin Cabanis, parce que le rugby sur Sud Radio, ça commence dès le vendredi avec la Pro D2. La Pro D2 commence le jeudi, mais sur Sud Radio, c'est le vendredi à partir de 19h30 et Alexandre Priam. Et c'était la 6e journée, Quentin Cabanis. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, les résultats?
Ouais, c'est important de souligner aussi que c'est la fin du premier bloc qui a eu lieu ce week-end avec jeudi soir le succès de Vannes sur la pelouse de Dax, 16-15. Ensuite, Brive a battu Oyonnax 33-18. Succès de Colomiers face à Agen, 31-5. Béziers a battu Carcassonne, 31-19. Défaite de Biarritz à domicile face à Aurillac, 19-13. Nevers a battu Soyons-Angoulême, 33-10. Victoire de Valence-Romans face à Mont-de-Marsan, 35-21. Et Grenoble a perdu à domicile face à Aix-en-Provence, 24-23. Au classement de cette Pro D2, à la fin de ce premier bloc, c'est Colomiers qui est leader avec 22 points. Juste de
devant Vannes. Ensuite, on va retrouver deux équipes à 20 points, Brive et Nevers. Agen est 5e. Bon début de saison des Agenais. Ensuite, on va retrouver Valence, Romans, Grenoble, Aurillac, Aix-en-Provence, Béziers, Oyonnax 11e, Carcassonne, le promu 12e, devant Soyaux, Angoulême 13e, Biarritz 14e, Mont-de-Marsan est 15e avec 5 points et Dax n'a qu'un petit point, 16e. Dax qui avait commencé la saison avec 5 points de retard, c'est important de le rappeler.
Exactement, tu l'as dit, break pour la Pro D2 le week-end prochain, retour le jeudi 16 et vendredi 17 octobre, évidemment à suivre sur Sud Radio. Enfin, c'était la fin du Rugby Championship avec la victoire en Australie de la Nouvelle-Zélande 14-28 et la victoire de l'Afrique du Sud contre l'Argentine à Twickenham 27-29. Ce sont donc les Springboks qui s'imposent pour cette édition 2025, égalité de points avec la Nouvelle-Zélande mais un meilleur goal average. Puis suivra l'Australie et l'Argentine qui ferment la marche. Une très belle édition messieurs, rapidement, Quentin Barbaza, une belle édition.
Ça fait plaisir de voir un peu d'homogénéité et de compétition, une édition relevée dans l'hémisphère sud là cette année. On a vu les Australiens qui sont bien rattrapés, on les annonçait un peu au fond du seau. C'est de bon augure pour la tournée de novembre, à voir comment les équipes du Nord, comment elles vont réagir, ces équipes, quand elles vont venir affronter les équipes du Nord. Donc franchement, j'ai regardé tous les matchs, je me suis levé tôt et j'ai bien aimé.
Et c'est pour ça qu'il a des cernes, Quentin Barbaza, pas uniquement à cause de son stage. Quentin Cabanis, est-ce qu'on a hâte de voir arriver l'Australie et l'Afrique du Sud pour jouer la France là en novembre?
Oui, a priori, Baden Barrett en plus sera de la partie pour la Nouvelle-Zélande. Il devrait être là pour la tournée contre l'équipe de France notamment, donc ça peut être très sympa à voir, mais on a forcément hâte de voir ces joueurs, mais on a aussi hâte de revoir les Argentins, les Australiens dans notre championnat, tu vois, des petits Skelton, des petits Chocobares, des petits Malia revenir. Déjà, d'une, ça ne pourrait pas faire de mal à certaines équipes.
Et
de deux, c'est quand même des joueurs qu'on aime voir jouer, donc les retrouver chez nous, ça va faire du bien.
Ah, on est toujours mieux comme ça, chez nous.
S'ils reviennent, c'est qu'on est mieux ici.
On parle pas de la météo, là.
Peut-être pas là par contre, je suis pas sûr. Après il y en a qu'on joue à Twickenham ce week-end,
oui, c'est pour ça.
Y a pas une grosse différence,
oui, c'est à peu près pareil. La troisième mi-temps Sud Radio se termine ici. Merci au Quentin de m'avoir épaulé pour cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez écouter, commenter et partager ce podcast et vous retrouvez tous nos contenus rugby sur sudradio.fr ou l'application Sud Radio. Bonne semaine à toutes et tous.
La troisième mi-temps Sud Radio.